Moi, j'allais tout de suite dans les backrooms. On oublie tout, d'un seul coup, police ! Et on nous a transférés au Quai des Orfèvres en procédure en flagrant délit.
Bonjour, bienvenue dans le fil de l'histoire. Comment a été réprimée l'homosexualité avant 1982 en France ? C'est la question à laquelle nous tentons de répondre cette semaine avec l'historienne Florence Tamagne. Aujourd'hui, troisième épisode. Dans l'épisode précédent, nous avons vu qu'au XIXe siècle, en France, les homosexuels, surtout masculins, subissent toujours une répression policière.
Antoine Jouin, brigade de recherche.
Je suis marié.
Avancez. Papier. Et sinon, vous faites quoi dans la vie, Félicien ? Enfin, quand vous n'êtes pas en train de vous promener, bien sûr.
Employé de banque. Crédit Lyonnais. J'ai jamais eu le moins de soucis avec la justice. J'ai un peu d'argent. On peut s'arranger.
J'ai votre nom et votre adresse. Sollicitation d'un officier assermenté. Racolage. Sodomie. Vous n'allez pas me forcer à rendre visite à votre famille.
À la fin du XIXe siècle, en France, l'homosexualité en tant que telle n'est pas considérée comme un délit, ce qui n'empêche pas la police de pourchasser avec ardeur les homosexuels masculins jusque dans les jardins publics et les Vespasiennes, au nom de l'outrage public à la pudeur. Mais faisons un pas de côté chez nos voisins européens à la même époque. En Allemagne, depuis 1871, l'homosexualité est sévèrement réprimée par le fameux paragraphe 175 du Code pénal, qui interdit, je cite, « les actes sexuels contre nature », c'est-à-dire le coït anal pratiqué entre deux hommes, et les punit d'une peine qui peut s'élever à 5 ans de prison et s'accompagner de la perte des droits civiques. En 1906, une affaire, l'affaire Eulenburg, fait scandale dans les cercles du pouvoir à Berlin. Un proche de l'empereur Guillaume II, un certain Philippe von Eulenburg, est accusé d'homosexualité dans la presse. Eulenburg perdra son procès retentissant et sortira ruiné de l'affaire. Par ailleurs, comme Eulenburg était un partisan d'un rapprochement diplomatique avec la France, se développe dans le grand public l'idée qu'homosexualité rime avec trahison. Le paragraphe 175 fera longtemps la vie dure aux homosexuels allemands, puisqu'il sera en vigueur jusque dans les années 1970 et ne sera définitivement supprimé qu'en 1994. Au Royaume-Uni, la situation n'est pas meilleure. Depuis 1885 et ce qu'on appelle l'amendement Labouchère, au nom de la grossière indécence, the gross indecency, l'homosexualité est considérée comme un crime passible de peine de prison, même pour des pratiques sexuelles autres que la sodomie, comme la masturbation entre hommes. C'est cette loi qui, en 1895, à Londres, amènera devant les tribunaux Oscar Wilde, présenté comme l'homosexuel corrupteur de la jeunesse. Accusé d'outrage aux bonnes mœurs et de sodomie, il sera condamné à 2 ans de travaux forcés, la peine maximale. Une épreuve terrible, physique et morale, dont l'écrivain ne se remettra pas.
France Inter, le fil de l'histoire, Stéphanie Duncan.
Ils viennent de me mettre les menottes. Le juge a fait signe au gardien de m'emmener. L'important est d'arriver à l'heure au bagne. Fini les chemises à jabot de dentelle et les bagues serties de saphir. Ce soir, j'aurai la tête rasée et une belle tenue de forçat. Les journaux vont s'en donner à cœur joie pour me traîner dans la boue. Ils écrivent que je suis un monstre, le plus grand pervers sexuel d'Angleterre. Ils disent que je suis un malade. Étonnant, cette maladie semble frapper les plus grands esprits. Shakespeare, Michel-Ange, Léonard de Vinci. Que cette époque est vulgaire! Je vais au bagne pour l'amour qui n'ose pas dire son nom.
L'amour qui n'ose pas dire son nom, une jolie expression d'Oscar Wilde. Florence Tamagne, au tournant du XXe siècle, la situation des homosexuels en Grande-Bretagne et en Allemagne est pire qu'en France.
Oui, puisque là, on a une législation qui vise explicitement, voilà, l'homosexualité masculine, pas l'homosexualité féminine une fois de plus, avec des peines qui peuvent être des peines très lourdes et qui aboutissent là généralement à la destruction complète des individus, à la perte de toute vie sociale, en particulier pour des personnalités de premier plan. Encore dans les années 20, en Allemagne, on peut avoir plusieurs milliers d'arrestations, de condamnations chaque année.
Dans cette fiction qu'on a entendue, cet extrait donc consacré à Oscar Wilde, il dit « Les journaux disent que je suis un pervers, un malade ». Est-ce que c'est quelque chose de nouveau à la fin du XIXe siècle? On se met à parler, à propos de l'homosexualité, de perversion, de maladie mentale?
Oui, beaucoup de médecins, de psychiatres, à partir du milieu du XIXe siècle, s'interrogent sur les supposées causes de l'homosexualité. Est-ce qu'il s'agit de quelque chose qui serait inné ou acquis? Est-ce qu'il est possible de soigner, entre guillemets, l'homosexualité? Est-ce qu'il y a des traitements possibles? Alors, il y a beaucoup de théories contradictoires. On a des sommités de l'époque, comme Krafft-Ebing, par exemple, qui sont plutôt tenants de l'idée que l'homosexualité, c'est une forme de dégénérescence. D'autres s'interrogent plutôt sur l'influence du milieu, sur l'hérédité. Vous avez une thèse, alors, qui va avoir énormément de succès, qui est développé notamment par le médecin allemand et militant homosexuel Magnus Hirschfeld, qui considère que l'homosexualité, c'est une forme de troisième sexe. Donc il élabore une échelle d'intermédiaire sexuel. Alors évidemment, le vocabulaire aujourd'hui n'est plus exactement le même, mais en gros, il étudie aussi bien l'homosexualité, la bisexualité, ce qu'on appellerait aujourd'hui plutôt la transidentité. Pour lui, il ne s'agit pas d'une maladie et cette idée du troisième sexe va être reprise par un certain nombre de militants de l'époque. Après, du côté de la psychanalyse, Freud, lui, met en avant l'idée d'une bisexualité originelle de l'être humain. Lui ne considère pas qu'on puisse véritablement soigner l'homosexualité, ce qui ne veut pas dire que ses disciples, ensuite, ne proposeront pas toute une gamme
de soins,
de psychothérapie, qui iront, dans certains cas, extrêmement loin.
Et comment est regardée l'homosexualité féminine sous le regard des médecins?
Alors, ce qui est une fois de plus frappant, c'est qu'il y a beaucoup plus de travaux de médecins sur les hommes que sur les femmes. On a néanmoins le sexologue britannique Havelock Ellis qui s'intéresse au lesbianisme. Et lui, il distingue ce qu'il appelle les vrais homosexuels, dont l'homosexualité serait innée, qui seraient des lesbiennes masculines, des lesbiennes féminines qui auraient été séduites. Donc, on a tout ce discours, là encore, entre inné et acquis, possibilité d'une influence, d'une corruption de la jeunesse, qui va avoir aussi des conséquences importantes. Dans les mouvements féministes, on s'inquiète de la présence possible de lesbiennes. Il y a tout un discours lesbophobe qui se développe à partir de là.
Et dans ce contexte, au début du XXe siècle, surtout après la Première Guerre mondiale, dans ce qu'on appelle les années folles, se développe une identité homosexuelle pour les hommes et les femmes. Les premiers mouvements homosexuels qui organisent des conférences, lancent des pétitions, et curieusement aussi, on constate surtout dans les pays les plus répressifs, en Allemagne et au Royaume-Uni, mais en France aussi, surtout à Paris, on voit apparaître des bars et des salles de spectacle gays et lesbiens, enfin on ne disait pas ça à l'époque. Est-ce que cette visibilité veut dire que la tolérance est plus grande et la répression moins forte pour autant?
Du côté allemand, en effet, depuis 1897, il existe des mouvements militants qui, justement, souhaitent l'abolition du fameux paragraphe 175 et qui déploient des moyens qui sont en fait des moyens très modernes. Hein. Ils font du lobbying auprès des partis politiques, ils font circuler des pétitions, ils distribuent des tracts auprès du grand public pour les informer de ce qu'est l'homosexualité. Mais en même temps, il y a en effet le développement, là encore, d'une subculture homosexuelle avec des bars, avec des clubs, avec des associations de toutes sortes. En France, où il n'y a pas de loi spécifique contre lesquelles se mobiliser, c'est plutôt la parole d'intellectuels qui prime. André Gide qui publie Coridon en 1924, Colette qui écrit Ses plaisirs en 1932. Mais on va avoir là aussi, en effet, toute une effervescence culturelle, des lieux de plaisir qui ont pignon sur rue, mais qui suscitent aussi des réactions inquiètes, voire des critiques très forte dans la presse également d'extrême droite. Il y a plusieurs tentatives finalement d'utiliser les scandales homosexuels pour décrédibiliser la République, pour dire que le régime courra sa perte. Voilà, donc on est dans une tension.
Merci Florence Tamagne. Dans le prochain épisode, nous verrons comment cette idéologie de la pseudo-décadence va trouver un écho dans les régimes autoritaires, Union soviétique, Allemagne nazie et même régime de Vichy, qui va conduire à recriminaliser l'homosexualité.